Parler du nucléaire n'est pas chose facile. La discussion est souvent technique. Heureusement, Bernard Laponche, physicien nucléaire, connaît la technique sur le bout des doigts. Aucun neutron n'a de secret pour lui. Mais ce n'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question politique. En France, nous sommes 66% à vivre à moins de 75 km d'un réacteur nucléaire. Il est grand temps que la population soit actrice des choix énergétiques. Et enfin, le nucléaire est un sujet éthique. Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures? Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponche peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle « Un déjeuner chez Bernard » et c'est parti. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'un déjeuner chez Bernard. Aujourd'hui, je suis chez Pauline Boyer. Bonjour Pauline.
Bonjour Mathieu.
Pauline, tu travailles pour Greenpeace, tu es chargée de campagne transition énergétique et on va parler d'uranium et des relations qu'entretient la France avec la Russie autour de l'uranium, enfin de plein d'uranium, il faudrait que je mette des S à l'uranium. Et je voudrais qu'on démarre cette histoire à Dunkerque en août 2022. Qu'est-ce qui se passe en août à Dunkerque?
Alors en août, on se rend compte, donc avec l'équipe de Greenpeace, que des cargos russes continuent à faire le balai entre la Russie et la France et livrent de l'uranium à l'industrie nucléaire française. Donc malgré l'invasion de l'Ukraine et malgré le fait que le gouvernement affiche un soutien au peuple ukrainien, à Vladimir Zelensky, qui lui demande des sanctions contre Rosatom, puisque Rosatom, c'est l'entreprise qui occupe la centrale nucléaire de Zaporizhia depuis le mois de mars 2022. Donc on continue à suivre les cargos qui arrivent et donc au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, novembre de l'année dernière, on va à chaque fois observer ce qu'il se passe à Dunkerque à l'arrivée des cargos russes.
Alors peut-être petite précision, c'est quoi Rosatom exactement ?
Donc Rosatom, c'est une entreprise d'État russe qui a été fondée par Vladimir Poutine en 2007. Et l'objectif, c'était... c'est une entreprise qui a sous son giron le nucléaire civil et militaire russe. Okay. Donc elle regroupe 400 entreprises du nucléaire civil notamment. Et l'objectif de Rosatom, c'est de... pour Vladimir Poutine, c'est un outil géostratégique. C'est-à-dire que, en fait, Rosatom fait de l'enrichissement d'uranium. Okay. Rosatom contrôle tout le transport des matières premières, des matières nucléaires qui passent sur son sol. Rosatom construit des centrales nucléaires dans le monde, et c'est même le premier constructeur de centrales nucléaires au monde. Et donc, à la main sur le nucléaire militaire également. Fait aussi les législations et il y a un lien très étroit entre les directeurs et toute l'administration de Rosatom et le régime de Vladimir Poutine. Donc aujourd'hui, quand Rosatom construit une centrale nucléaire dans un autre pays, elle crée une dépendance financière puisque les banques russes prêtent de l'argent aux pays qui veulent construire une centrale nucléaire, parce que c'est un obstacle énorme pour construire une centrale nucléaire, l'argent, le financement. Donc ça crée une dépendance financière, une dépendance technologique, une dépendance énergétique, donc. Et c'est comme ça que, plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine, Rosatom ne figure toujours pas sur la liste des sanctions européenne. C'est un domaine qui a été complètement invisibilisé au début et n'a pas été traité comme la dépendance au pétrole et au gaz russe, parce qu'il y a 18 centrales nucléaires russes en Europe et que des pays comme la Hongrie, la Bulgarie dépendent en partie de Rosatom et de la Russie pour la fabrication de leur électricité.
Ok, donc je vais revenir un peu peut-être détail par détail, parce que tu as parlé de deux choses qui me semblent intéressantes. Il y a d'abord le transport sur son sol, et donc ça c'est quoi? C'est de l'uranium naturel qui va transiter sur le sol russe pour arriver en France.
et qui, comme il transite par la Russie, est sous contrôle de Rosatom, enfin, sous le, je ne sais pas exactement quel bon mot utiliser, mais...
Alors, peut-être pour ça, je peux rappeler les chiffres donc, dont on a eu connaissance, puisque les chiffres des douanes sont accessibles. Donc, l'année dernière, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en 2022, un tiers de l'uranium enrichi nécessaire au fonctionnement de notre parc nucléaire français a été importé de Russie. En 2022, toujours, la moitié de notre uranium naturel est importé du Kazakhstan et d'Ouzbékistan. Et donc, on s'est demandé comment était transporté cet uranium naturel et est-ce qu'il arrivait aussi par cargo, parce qu'on a vu qu'il y a eu de l'uranium naturel déchargé des cargos russes à Dunkerque. Mais l'industrie ne nous répond pas vraiment ou pas toujours sur d'où il vient, etc., pour qui c'est. Donc, c'est très, très opaque. Et donc, on a fait toute une investigation et on s'est aperçu que la majeure partie de cet uranium provenant du Kazakhstan et d'Ouzbékistan transite par la Russie, donc par train, puis après est chargée sur les cargos et envoyée en Occident. Et donc, ça fait que Rosatom a la main mise sur le transport d'une énorme partie, de presque la moitié de notre uranium naturel importé en 2022. Donc, et ça, parce que Rosatom a contrôle à la gestion du transport des matières nucléaires qui transitent sur son sol.
Mmh. Ok. Alors, juste pour rappeler, enfin, tu me dis si je me trompe, mais on va partir de l'uranium naturel qui est un minerai, qu'on va trouver dans des mines, on va l'enrichir dans des usines d'enrichissement, et c'est cet uranium enrichi qui va servir de combustible dans les centrales. C'est bon ça ?
C'est ça. En gros, on extrait d'uranium des mines, donc on n'exploite plus de mines d'uranium en France, donc tout, on dépend des pays fournisseurs d'uranium pour se procurer l'uranium qui va servir à la fabrication du combustible. Quand il est extrait de la mine, il subit des opérations de conversion et d'enrichissement. Donc on enrichit l'uranium en uranium-235, qui est un isotope qui est présent en faible concentration dans le minerai, et on a besoin qu'il soit plus concentré. Donc c'est là qu'on dit qu'il est enrichi, pour ensuite être assemblé en combustible. Donc c'est sous forme de petits palets qu'on empile dans les crayons, et c'est ce qui va dans le cœur du réacteur et va provoquer la réaction de fission nucléaire. Et donc, cet uranium naturel, il peut soit être enrichi dans d'autres pays, et c'est le cas de l'uranium enrichi russe que nous recevons, donc celui-là, il est enrichi sur le sol russe, ou alors on reçoit directement l'uranium naturel, puisque la France a une usine d'enrichissement, l'usine d'enrichissement de Georges Besse, sur le site du Tricastin, et donc la France a tout un processus de conversion, donc l'uranium naturel arrive à Malvézy, subit des opérations de conversion, puis l'enrichissement sur l'usine de Georges Besse, et il est ensuite l'uranium est assemblé en combustible sur le site de Pierre Latte de Framatome.
Parce que moi, par exemple, en fait, en lisant le résumé du rapport de Greenpeace qui est en ligne, moi, je savais pas du tout qu'on importait de l'uranium enrichi. Je pensais vraiment que toute cette partie-là d'enrichissement, elle était grosso modo franco-française. Et là, quand on en parlait avant, tu me disais, ben en fait non, il y a 4 ou 5 sites dans le monde qui font de l'uranium enrichi. En fait, c'est un savoir-faire, enfin je sais pas comment dire, des usines qui sont très rares. Et c'est pour ça qu'on dépend donc aussi de Rosatom pour avoir du produit fini, quoi, du combustible. Enfin, alors, c'est pas vraiment du combustible peut-être, mais c'est l'étape d'avant le combustible, c'est ça ?
C'est l'étape d'avant, okay. C'est ça. En fait, il y a plusieurs enrichisseurs au monde, mais les principaux, c'est vraiment Rosatom, qui est le plus grand enrichisseur au monde. Urenco, et qui est aux Pays-Bas, avec quelques sites dans plusieurs pays, et Orano, donc, est un enrichisseur français. Orano, c'est une entreprise nucléaire française. Le fait de savoir si on est dépendant ou pas au niveau de l'uranium enrichi, bah, c'est compliqué parce qu'on n'a jamais de données, etc. Nous, ce qu'on constate, en tout cas, c'est que l'année dernière, on a importé... les deux tiers des importations d'uranium enrichi venaient de Russie. Donc, pourquoi est-ce qu'en temps de guerre en Ukraine, on importe encore ces matières nucléaires et pourquoi l'industrie nucléaire française continue-t-elle à collaborer avec Rosatom, qui est clairement lié au régime de Vladimir Poutine? Donc nous, on appelle ça une dépendance, effectivement, parce oui. qu'il n'y a aucune décision politique qui a été prise en accord avec, avec les discours du gouvernement sur ce sujet-là. Ensuite, Georges Bess, enfin l'usine de Georges Bess enrichit aussi pour le compte de clients étrangers. Donc voilà, il y a toute une circulation de l'uranium dans le monde qui est plus ou moins documentée. L'Allemagne, par exemple, publie a posteriori les arrivées d'uranium à Lingen, sur le site de Lingen et le site de Gronau. Donc on sait en Allemagne qui a livré l'uranium, pour quelle société, etc. En France, tout est opaque, on ne le sait pas, il n'y a rien qui est communiqué. Et Greenpeace a d'ailleurs fait cette demande en novembre 2021 au ministère de la Transition écologique et ministère de la Transition énergétique, a fait une demande de communication de ces informations, de suivi de l'uranium, de la destination de l'uranium qu'on envoie en Russie, et notamment sur l'uranium on a fait une demande sur un bilan global des importations et exportations d'uranium avec les entreprises impliquées, et avec un accent sur l'uranium de retraitement, puisque depuis 2021, la France a repris l'exportation d'uranium de retraitement en Russie, et sans garantie que... En 2010, il y a eu une enquête qui a été faite sur les conditions de prise en charge de l'uranium de retraitement sur le sol russe. Et on a vu que c'était une catastrophe environnementale, puisqu'il y avait des déchets liquides suite au traitement de cet uranium de retraitement qui était injecté dans le sol.
Alors attends, on partira sur l'uranium de retraitement okay. après. Je voudrais juste rester sur cette question d'importation d'uranium enrichi. Est-ce qu'en Europe, donc tu me dis qu'il y a des centrales russes dans d'autres pays, donc la question de Rosatom, elle ne se pose pas qu'avec la France? Mais les pays qui ne dépendent pas de Rosatom, est-ce qu'il y a des pays qui, au niveau de l'Europe, disent « Attendez, mais là, vous traitez encore avec Rosatom, là, il y a quand même un problème de géopolitique fort. » Enfin, est-ce qu'au niveau européen, il y a des pays qui se plaignent des relations entre la France et la Russie?
Alors oui, bien sûr, il y a une alliance de pays pro-nucléaire et pro-gaz qui a œuvré l'année dernière au niveau de la Commission européenne pour faire inclure le nucléaire et le gaz fossile dans la taxonomie européenne. Donc la taxonomie européenne qui est un catalogue des énergies vertes ou des énergies de transition.
Okay.
Donc il y a différents pays qui font différentes alliances. Et là, très récemment, suite à la publication de plusieurs rapports de Greenpeace, dont un gros justement au mois de mars dernier, cette question de sanctionner Rosatom, elle revient sur le... Enfin, elle est de plus en plus importante dans le débat public. Et récemment, lors du dernier G7, l'Allemagne s'est clairement positionnée en faveur d'inscrire Rosatom sur la liste des sanctions européennes. Et clairement, la France œuvre pour que ce soit l'inverse, puisque l'industrie nucléaire française a des contrats dans tous les domaines du nucléaire avec Rosatom. Aujourd'hui, il y a deux réacteurs nucléaires qui sont en construction en Hongrie, et donc qui sont construits par Rosatom, et Framatome, donc industrie française, fournit les équipements commandes de ces deux réacteurs. Donc on continue activement à collaborer avec Rosatom, donc on continue à renforcer le pouvoir de Vladimir Poutine via Rosatom. Et ça, c'est ce que Greenpeace dénonce depuis le début de la guerre en Ukraine, pour aussi montrer à quel point l'argument utilisé par le gouvernement de la nécessité de relancer la construction de réacteurs nucléaires pour garantir l'indépendance énergétique de la France est faux.
C'est le grand roman.
Complètement faux. Ouais.
D'accord. Donc à un moment, tu as parlé d'uranium de retraitement. Donc ça, c'est une troisième composante de la dépendance, enfin en tout cas des interactions entre la France et la Russie à travers Rosatom. C'est quoi cet uranium de retraitement, juste pour remettre un peu en tête les idées?
Alors, en France, quand un combustible sort du réacteur nucléaire, il est envoyé à la Hague. Et donc la Hague, c'est l'usine de retraitement qui et là-bas, donc le combustible est divisé en trois parties. Donc il y a 95% d'uranium, de ce qu'on appelle d'uranium de retraitement, 4% de déchets ultimes qui aujourd'hui sont stockés à la Hague et dont on ne sait que faire pour l'instant, qui sont c'est les périodes de vie très longues et donc très radioactifs, et 1% de plutonium. Okay. Donc cet uranium de retraitement, il est stocké à Tricastin. Aujourd'hui, on a à peu près 34 000 tonnes d'uranium de retraitement sur le site de Tricastin. Et la France exportait cet uranium de retraitement en Russie, en Sibérie, sur le site de Tomsk, c'est Seversk, qui est une ville rayée de la carte, où il y a énormément de matières nucléaires stockées, parfois même à ciel ouvert. Et là-bas, donc, cet uranium de retraitement, et donc on est complètement dépendant de la Russie pour la réutilisation de l'uranium de retraitement, puisque la Russie possède la seule usine capable de reconvertir et de réenrichir cet uranium de retraitement. Et donc là-bas, l'uranium de retraitement suit tout un processus, et 10% devient de l'URE, uranium de retraitement réenrichi, et 90% sont des déchets. Donc, okay. C'est pour ça que Greenpeace dénonce l'envoi de déchets nucléaires en Russie, puisque vu le rendement de l'opération, on trouve vraiment scandaleux de faire ça. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a que les 4 réacteurs de la centrale de Kruas qui peuvent utiliser l'uranium de retraitement. De l'uranium de retraitement réenrichi. Et que ça veut dire beaucoup de transport, de matières radioactives.
En Sibérie, t'as dit ?
C'est ça.
Ah ouais. Oui, donc le truc transite, fait deux fois le tour du monde pour aller là-bas et revenir.
Voilà. Okay. Et donc, ce qu'on a remarqué le 29 novembre 2022, donc à Dunkerque, c'est que ce jour-là, il y avait une énorme livraison d'uranium. Donc, il y avait de l'uranium enrichi et de l'uranium naturel. Et les journalistes, en demandant à Framatome et à EDF, ont eu la confirmation d'une part que de l'uranium enrichi était bien utilisé pour la fabrication de combustible pour les réacteurs nucléaires français et des clients de Framatome. Et EDF a confirmé la réception d'uranium de retraitement réenrichi. Okay. Voilà. Donc, c'est tout un processus, cet uranium de retraitement, que nous remettons vraiment en question, de par les pollutions atmosphériques et de la Manche et des terres un peu autour de l'usine de la Hague, parce qu'à chaque fois qu'il y a un processus de retraitement, eh bien, il y a des relargages radioactifs qui sont autorisés, évidemment, mais c'est factuel. Et le fait que ensuite on se débarrasse, le processus de réutilisation réutilisation de cet uranium de retraitement pose vraiment une question éthique d'exportation des déchets dans un autre pays.
Oui, et puis avec un rendement de 10%, on comprend bien qu'en fait, grosso modo, on envoie 90% de nos poubelles là-bas, et j'imagine qu'on se préoccupe assez peu que devient ces 90% de déchets en Russie, quoi. Ça, il y a eu des enquêtes là-dessus un peu?
Eh bien, justement, Greenpeace a demandé au ministère de la Transition énergétique et écologique, donc en novembre 2021, quand ces exportations ont repris, parce qu'on avait déjà réussi à faire stopper ces exportations en 2010, mais elles ont repris en 2021. Et donc les ministères nous ont dit, dans un premier temps, qu'ils n'avaient pas d'informations et qu'ils n'avaient pas à en savoir, que c'était à la Russie de gérer ça.
Sympa.
Voilà. Ensuite, alors qu'ils sont obligés légalement de faire ce suivi-là.
Par qui ? Légalement par qui ?
C'est une de leurs obligations en termes de... Enfin, c'est une loi qui dit okay. que...
C'est une loi française qui dit que tout opérateur du nucléaire doit suivre jusqu'au bout. Enfin, je ne sais pas comment c'est formulé, mais c'est un truc comme ça, quoi.
En fait, c'est dans le code de la défense, l'État doit contrôler... Enfin, doit contrôler et connaître en permanence la localisation, l'emploi des matières nucléaires, leurs conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable, et d'être sûr que tout est bien protégé.
Ah, donc c'est l'État en fait, c'est même pas sur Orano ou EDF que pèse cette contrainte-là, c'est l'État français qui se doit de vérifier ce qui se passe avec les matières nucléaires qui sortent du territoire.
Bah, les industriels aussi, mais l'État doit vérifier, doit contrôler.
Ah, ok.
Et donc, cette première réponse qui a été faite au tribunal administratif, puisque les ministères ont refusé n'ont pas répondu à Greenpeace, donc on a saisi le tribunal administratif.
Okay.
Et donc, l'audience s'est passée hier. Et donc, ça, c'était la première réponse. Et ensuite, ils invoquent le secret, les secrets au niveau géopolitique et le fait que par rapport à la guerre en Ukraine, ils ne peuvent pas communiquer ces données. Alors qu'en fait, ces données sont aussi communiquées par l'Allemagne. Donc le fait que leur divulgation porterait atteinte aux relations politiques extérieures de la France du fait de la guerre en Ukraine, pour nous, c'est pas recevable. Et
là,
donc...
tu citais la parole de l'État qui disait, c'est ça ?
Ouais, c'est okay. ça. C'est la deuxième réponse qu'on a eue,
okay.
qu'ils ont communiqué au tribunal administratif suite à notre requête. Et en fait, on s'est aperçu en faisant cette demande que le gouvernement ne respecte pas non plus son obligation de rédiger un rapport annuel et de le donner au Parlement. En ce qui concerne la protection et le contrôle des matières nucléaires, suivant le code de la défense. Enfin, bref, donc il y a plusieurs obligations auxquelles l'État soit ne répond pas, soit on a le droit d'en douter vu les réponses qui nous ont été opposées, quoi.
Alors attends, si je comprends bien, là en fait, chaque année, l'État devrait donner au Parlement un rapport qui dit, voilà, pour qu'il y ait un contrôle démocratique de ce qui se passe quand même dans cette industrie-là, et l'État, en fait, se soustrait à son obligation.
Exactement.
Ok, mais depuis toujours ?
Eh bien, là, on est en train de rechercher, mais en tout cas, a priori, depuis 2009, il n'y en a pas eu. Et donc, c'est assez inquiétant, parce que c'est des... Enfin, effectivement, l'État devrait être vraiment garant du suivi et de la protection des matières radioactives. Donc... Donc on en est là, on attend le verdict et le rapporteur public a d'ailleurs sanctionné l'État sur son silence, parce que sur le fait que le ministère ne nous ait pas répondu.
Mm-hmm.
Mais par contre, n'est pas allé plus loin sur le fond en disant qu'en ne demandant pas à ce que l'État nous communique ses informations. Seul et
okay.
Voilà, donc on attend la réponse.
Donc en même temps, il a dit « c'est pas bien de pas répondre », mais il a pas dit « vous devez répondre ». Donc c'est un flou, ouais. Bon.
En fait, c'est l'État devrait répondre à Greenpeace, peut-être qu'il ne veut pas communiquer ses informations,
ouais.
Mais avec une réponse motivée, mais pas forcément, il ne demande pas au ministère de faire la lumière sur le suivi des matières radioactives.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres sujets connexes à cette question de relation avec la Russie, mais qui, quelque part, est un exemple flagrant de dépendance avec l'extérieur, et qui, là, en plus, est un extérieur bien particulier, puisque c'est la Russie, c'est Poutine, et on est dans un contexte géopolitique particulier. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te semblaient importantes de partager sur ces questions-là de la relation entre la France et Rosatom ?
Aujourd'hui, il n'y a aucun contrat, à notre connaissance, qui a été rompu entre l'industrie nucléaire française et Rosatom. Au contraire, les entreprises continuent à travailler ensemble. Et on a même connaissance d'une création d'entreprise entre une filiale de Framatome et une filiale de Rosatom pour fabriquer du combustible nucléaire. Donc, les relations entre Rosatom et l'industrie nucléaire française sont toujours actives. Ce qu'on a su, ce qu'on a appris lors d'une réunion de l'ANCLI à laquelle deux personnes de Greenpeace participaient, donc c'est les commissions locales d'information qui sont à proximité des centrales nucléaires, c'est que l'État avait ordonné à EDF de stopper les exportations d'uranium de retraitement suite à la communication de Greenpeace du 28 septembre de l'année dernière, où en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une arrivée d'un train d'uranium de retraitement et les conteneurs ont tous été chargés dans le cargo.
C'est-à-dire, toi, tu les as vus parce que tu étais à Dunkerque ce jour-là, quoi, c'est ça ?
Exactement. Ce train est arrivé à la fin de la journée et ils ont chargé plus d'une dizaine de conteneurs d'uranium de retraitement. Et donc là, nous avons communiqué dessus. Ça a été quand même très bien repris par les médias. Et donc, on voit que c'est une position inconfortable puisque l'État a ordonné à EDF d'arrêter ses exportations. Mais on ne sait pas dans quelle modalité. Est-ce que le contrat est rompu ? Est-ce que c'est juste un arrêt temporaire ? Et donc, le ministère à qui on a adressé cette demande ne nous répond pas, évidemment. Voilà.
Mais j'imagine que pour l'industrie nucléaire, c'est un besoin d'exporter cet uranium de retraitement, parce que j'imagine que le stocker, c'est compliqué et qu'en fait, c'est quand même, j'imagine, beaucoup mieux de l'envoyer en Sibérie.
Ah bah c'est sûr que se débarrasser de ces déchets nucléaires, ça arrange, mais c'est derrière ça, il y a aussi toute la question de la pertinence du retraitement des combustibles. Et donc, parce que c'était pas du tout une obligation, et dans beaucoup de pays, dans la plupart des autres pays, de toute façon, ça n'est pas fait de cette manière-là. Parce que là, ce qu'on fait quand on retraite les combustibles, c'est qu'on dissémine un peu les produits radioactifs, quoi. Au lieu de les garder tous ensemble et de les mettre dans un endroit et les stocker, on les dissémine un peu. Et on voit bien que, de toute façon, on n'en a pas vraiment besoin là pour faire fonctionner nos centrales nucléaires. Que l'usine de Lacq, c'est une usine qui est vieillissante. Que l'utilisation, parce que la partie, donc le plutonium qui est issu de ce retraitement, il est utilisé pour faire ce qu'on appelle un combustible MOX, avec de l'uranium appauvri et du plutonium. Mais c'est pareil, cette usine donc qui fabrique du MOX est assez, assez vieille, avec des équipements qui ne fonctionnent plus très bien et des problèmes de process a priori. Et donc cette usine, elle fonctionne au quart de sa capacité de production. Donc on voit que dans tous les aspects, ça prend un peu, c'est un peu bancal. Et puis bah, la contamination quand même, les relargages radioactifs autour de l'usine de Lacq. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça, et le fait d'arrêter d'exporter de l'uranium de retraitement remettrait aussi en question le retraitement des combustibles usés.
Ok, si vous voulez en savoir plus effectivement sur ce qui se passe à La Hague, il y a un des épisodes d'un déjeuner chez Bernard où on parle de La Hague et des procédés chimiques de retraitement, et du fait qu'effectivement même sur les armoires, enfin sur les étagères comme le dit Bernard, on a une quantité de plutonium largement nécessaire pour faire tout ce qu'on veut avec. Eh bien, si ça te va, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup, Pauline, pour ton temps, ta connaissance et les actions que mène Greenpeace pour essayer d'y voir un peu plus clair dans ces relations très très bizarres entre la France et la Russie de Poutine. Et à bientôt pour un nouveau déjeuner chez Bernard. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack ALS et Feel the Sound. Le morceau s'appelle Volcano. À bientôt pour un nouvel épisode d'un déjeuner chez Bernard.